Bonsoir à toutes et à tous. Alors juste de rappeler que le cours est dédié pour la réponse chez les mains de Shaul Ben Linda. Khalal Kajbourg lui envoie une réponse chez les mains, une aslacha dans l'opération qu'il doit subir, Bézat Hachem, Bisro Trabi Meir Malanès, et Doris Bat.
Elisa.
Bat Elisa aussi. Refoua Shelema.
Refoua Shelema.
Ken, V.
Rosetta Bat
Ida. Rosetta Bat Ida.
Samuel Ben Gaël.
Samuel Ben Gaël. Et aussi pour Simcha Bat Felecha. Et Amavdil Ben Chaim de Metim, on va demander que le cours soit dédié à l'Eilou Nishmat de Abraham
Ben Aliza.
Kachem Elef Saneshama.
Ben
Irene. Ben Irene.
Ben Irene.
Irene.
Asim.
Grâce à Hachem, parmi tous les tzadikim d'Israël. À la fin, on va rajouter d'autres noms à la fin, si vous voulez. Victoire, Bat Shoshana. Kachem Elef Saneshama parmi les tzadikim d'Israël. Alors, donc on va essayer de réfléchir ensemble sur ce thème. Tout démarre d'un pasouk, dont on va écrire là-bas. Quand la Torah va donner la liste de tous les animaux qui sont interdits, alors elle a un langage un peu spécial. Elle dit comme ça, « Al teshaketsu et napshotechem » Si on traduit littéralement, ça veut dire ne rendez pas exécrable, ne rendez pas dégoûtante votre personne, votre nefesh. Bechol asheretz, asheretz ala aretz, avec tous les rampants, tous les animaux qui sont sur la terre. Velo titam ou ba'em, et vous ne devez pas vous rendre impur. Après c'est marqué venitamtem, venitmetem bam, et vous serez rendu impur par eux. Bon, ça a l'air d'un petit peu d'une répétition, parce que la Torah dit ne vous rendez pas impur et vous rendrez impur par eux. Après, c'est marqué « Kiani Hashem Elokechem ». Donc la Torah, elle a l'air de dire la raison pour laquelle est-ce qu'on ne doit pas manger certains animaux. Et elle dit « Veit Kadashem Veitem Kedushim ». Oui, vous vous sanctifierez et vous serez saints. Pourquoi « Kikadosh Ani » car je suis saint. Donc la Torah, elle a donné la raison pour laquelle est-ce qu'il y a certaines choses qu'on ne doit pas manger. Parce que « Akadosh Baruch Hu » il est saint. Et nous aussi, on a une mitzvah d'être saint. Après encore, la Torah, elle répète « Velo tetamu et nafshotechem bechol asheretz aromes alaretz ». C'est une répétition, c'est lourd. C'est rare que la Torah, à un passage d'intervalle, elle redit deux fois la même chose. Après, c'est marqué « Ki ani Hashem, car je suis Hashem, Amale etrem eretz Mitzrayim, qui vous a fait monter de la terre d'Égypte, liot lachem l'Elokim, afin d'être pour vous un Dieu, veitem kedoshim, et vous serez saints, ki kadosh ani, car je suis saint. » Et après, la Torah, elle commence à dire « Tel animal, il est interdit, tel animal, on n'a pas le droit de manger, après, celui-là, on a le droit de manger. » Alors, ils disent le commentaire, hein, pourquoi est-ce qu'on a mis cette introduction dans la Torah, pour simplement des choses qui vont passer par la bouche. C'est que quand on parle de la gravité du meurtre, ou de la gravité de l'adultère, ou la gravité de transgresser Shabbat ou Kippour, on peut comprendre. Mais là, il s'agit simplement des choses que tu vas manger. Bon, c'est ton corps. De toute façon, ton corps, il va rester sur la terre. Oui, toi, tu vas à l'Olamaba, au monde futur. Donc, quel intérêt de mettre un tellement haut niveau, au niveau de ce que quelqu'un y met dans sa bouche. Alors, Rashi, sur place, il explique comme ça. Il dit quand c'est marqué « Ki ani Hashem Elokechem » car je suis l'Éternel votre Dieu. Il dit que Shem Shani Kadosh, Shani Hashem Elokechem, là le langage. De même que moi je suis saint, car je suis votre Dieu, car Vid Kadashem. Alors vous aussi vous devez vous sanctifier. Kitchu Asmechem Lemata, sanctifiez-vous en bas. Ça veut dire qu'il y a une mitzvah. C'est ça qu'on dit à chaque fois qu'on fait une bracha, à chaque fois qu'on fait une mitzvah, Asher Kideshanu, Bemitzvota Vetsivanu, Asher Kideshanu, qui nous a sanctifié. Maintenant, cette notion de Kedusha, elle est un peu difficile à comprendre, parce qu'on a du mal à définir, est-ce qu'il s'agit d'un niveau que quelqu'un il a atteint, est-ce qu'il s'agit d'une espèce d'électricité statique que la personne elle reçoit, c'est un niveau de maturité intellectuelle, c'est quelque chose qui dépasse la perception de cerveau, ça se passe dans la Neshama, comment ça fonctionne Asher Kideshanu? Mais en tout cas, ici on nous dit qu'on doit se sanctifier par rapport à la sainteté d'Hachem. Sous-entendu que la sainteté d'Hachem, elle va devenir maintenant la référence de la sainteté de l'homme. Ça, c'est une chose qui est difficile. Kikadosh ani, car je suis saint. Moi, j'ai une mitzvah de me sanctifier, c'est une chose. Mais la sainteté de Dieu n'a rien à voir avec la mienne. Elle est énorme, elle est puissante, elle est loin de moi. Kadosh, kadosh, kadosh. Hachem tsevakot. Hachem, il est loin, loin, loin dans sa sainteté. Alors, comment est-ce que moi, je peux faire dépendre ma sainteté de sa sainteté? Oui? Kedoshim tiou, kikadosh ani. Soyez saints. Car je suis saint. Après, c'est marqué un peu plus loin. Veitem kedoshim. Oui. Alors, il dit, et vous serez saint. Les fiches ani akadesh etrem le ma'ala ou ba'olamaba. Parce que moi, je vais vous sanctifier en haut et dans le monde futur. Donc déjà ici, la Torah, elle vient une chose incroyable. C'est que le corps, qui a priori est une chose qui va rester dans ce monde-ci, la Torah nous dit que quand la personne, elle va faire les efforts de préserver son corps de certaines choses, il va être sanctifié, mais en haut et au Olam Haba, au monde futur. Mais le monde futur, il n'a pas de lien avec le corps. Vous savez très bien que personne ne va avec son corps au Olam Haba. Bon, il y a eu des exceptions très rares, des gens qui ont réussi à passer avec le corps, mais le corps, il n'a pas lieu d'être au Olam Haba. Ça n'a aucun intérêt. Il s'appelle Olam HaNeshamot, Olam HaNefashot. C'est l'endroit de la spiritualité, c'est l'endroit de l'âme, c'est l'endroit du psychique, au maximum de la conscience, mais jamais du corps. Qu'est-ce qu'il y a d'intérêt que le corps maintenant? On va dire que le Olam Haba, le corps, il va être touché. Et ensuite, de ce langage-là, il a dit les filles, parce qu'il dit Veitem Kedoshim, parce qu'on a dit Veit Kadashtem, Veitem Kedoshim. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Et là, Rachid explique, il dit les filles, Sheani Akadeshetrem, parce que moi, je vais vous sanctifier. Alors, on a déjà posé cette question dans un autre cours, mais ce n'est pas grave, vous pouvez réfléchir à nouveau dessus. Moi-même, j'assiste à toutes mes conférences. C'est-à-dire quoi? Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Ben c'est évident, c'est comme quelqu'un qui dit, vous plongerez dans l'eau et vous serez mouillé. Ouais. Vous vous marierez et vous ne serez plus célibataire. Bon, ça, c'est pas toujours vrai. Il y a des gens qui restent célibataires après le mariage. Ouais. Mais ça veut dire quoi? C'est une évidence. Veit Kadashem, Veitem Kedoshim. Vous vous sanctifierez, vous serez saint, c'est évident. Mais ici, le secret est écrit dans Rashi. Que l'homme, lui, son travail à lui, c'est Veit Kadashem. Toi, tu te sanctifies. D'accord? Toi, tu mets les téfilines, tu te sanctifies. Tu rentres dans le mikvé, tu te sanctifies. Tu manges kasher, tu te sanctifies. Tu t'habilles avec pudeur, tu te sanctifies. Tu mets la kavana dans la prière, tu te sanctifies. Ça, c'est ton travail à toi. Ça, c'est ton effort à toi. Ça, c'est Veit Kadashem. Maintenant, Veitem Kedoshim, que nous, on croit que c'est une conséquence normale. C'est faux, c'est pas une conséquence. C'est Hachem qui rend l'homme kadosh. Ouais, c'est lui qui le rend kadosh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Il n'y a pas un lien de causalité entre le fait que je suis Mekadesh et Tatsmi, ouais, que je me sanctifie, et le fait que je sois Kadosh. Parce que la Kadosh, elle vient de Dieu. Bon, mais ça, on a déjà expliqué ça plusieurs fois. Que en vérité, dans la vie, il faut avoir cette force-là, qu'un homme, il doit avoir une très, 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 très grande ambition. Ouais. Et malgré ça, il doit accepter que le résultat ne dépend pas de lui. Ça va? Je vais ouvrir le magasin, je vais amener la bonne marchandise, mais je sais que c'est Dieu qui envoie les clients. Ça va? Je vais aller à la guerre, je vais prendre une bonne armée, je vais prendre des bons armements, mais je sais que c'est Dieu qui va faire la guerre. Je vais être gentil avec la femme, je vais être sympathique, je vais être rigolo, mais je sais que c'est Dieu qui fait le shalom. Je vais parler aux enfants, je vais leur donner la Torah, je vais leur donner la Talecha, je vais donner la bonne école, mais je sais que c'est Dieu qui va les aider à des gens bien. Ouais. Maintenant, tant que quelqu'un n'a pas cette capacité de croire que le résultat ne dépend pas de lui, ouais, il n'a pas cette modestie de se retenir, de croire qu'il ne maîtrise pas, alors le bon Dieu lui dit, bon alors puisque tu n'as pas besoin de moi, de brasek, débrouille-toi. J'étais en Israël, il y a une semaine et demie, quelqu'un il m'a raconté une chose. J'ai dit, il faut que je raconte ça à Milan, et ailleurs d'ailleurs. C'est une chose incroyable. C'est un colonel de l'armée. Quand il y a eu la dernière guerre de Liban, le plomb durci, il a dit, mais non, il était pas religieux, mais il a fait teshuva. Vous savez, ça arrive, malheureusement, je m'excuse pour les gens à qui ça va arriver cette année, mais il n'était pas religieux, il a fait teshuva. Mais quoi il a fait teshuva? Parce qu'il était là-bas à l'armée, lui. Et lui, il était dans le QG de l'armée. Il a dit, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Juste deux petits miracles que les gens ne savent pas. Si vous vous rappelez, il y a 4 ans, la guerre, elle avait commencé avec un Motsei Shabbat, la sortie de Shabbat. Et moi, j'étais en Israël à un gala, où je vais tous les ans. D'ailleurs, je vais retourner la semaine prochaine. Et c'était un Motsei Shabbat. Et les gens de l'armée, ils avaient été à Bnei Brak pour aller demander des brachot au Rabbanim. C'est très rare. Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont dit les rabbanim? Ils ont dit, c'est bien, allez faire cette guerre, mais à une condition, vous rentrez après Shabbat à Gaza, après Shabbat, et pas après Shabbat, vous prendrez après Shabbat les filles rabinoutam, c'est-à-dire 72 minutes après le coucher du soleil. Ils ont accepté, avec la bracha des rabbanim, ils ont été. Maintenant écoutez bien ce qu'il raconte ce monsieur colonel de l'armée, à l'époque non religieux, parce que tu vas dire il était religieux, et pas religieux. Écoutez ce qu'il a dit. Le Mossad ne savait pas Ils avaient ramassé toute l'armée comme ça pour rentrer. Maintenant, ils ne savaient pas que les Palestiniens, ils marchaient mal. Ils avaient creusé des tunnels en dessous de Gaza. Des tunnels de 2 mètres, de 5 mètres, de 10 mètres. Et ils avaient caché tous les hommes en bas. Comme ça, quand les Israéliens vont rentrer, ils vont rentrer dans la ville. Et après, eux, ils vont sortir des tunnels, ils vont les massacrer. D'accord ? Donc, ils étaient sous-sol en train d'attendre. Ils ont dit, ils vont bombarder, nous, on est dans les tunnels. Et à part ça, deuxième plan, ils avaient mis des bombes dans tous les tunnels. Et ils ont dit que quand les Israéliens, ils arrivent, s'ils voient qu'ils n'arrivent pas, ils font sauter les tunnels, ils font sauter tout Gaza. Vous voyez ce qu'ils avaient prévu les Palestiniens. Et troisième plan, de l'autre côté, donc il y avait les Israéliens d'un côté, il y avait Gaza, et de l'autre côté, ils avaient mis toute une série de mortiers, c'est comme des petits canons comme ça, des milliers, et ils ont dit que si on n'arrive pas avec les deux premières parties du plan, la troisième partie, on va les bombarder par en haut, on va les massacrer. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont donné le signal de départ, et l'armée, maintenant, elle doit rentrer à Gaza. Ouais. Et d'ailleurs, ils annonçaient Tsahal Nirnas, Tsahal est en train de rentrer, mais en vérité, il ne rentrait pas. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a fait un miracle. Il s'est mis à pleuvoir une pluie de malades. Je ne sais pas si vous en rappelez, une pluie, ils n'ont jamais vu une pluie comme ça. Tellement il pleuvait, la terre, elle est devenue de la boue. Alors les camions, les soldats, ils n'arrivaient pas à avancer. Ils voulaient avancer, ils n'arrivaient pas à avancer. Mais pendant le temps qu'ils n'arrivaient pas à avancer, l'eau, elle tombait. Et l'eau, elle a rempli les tunnels. Et les types, ils sont morts, noyés, sans tirer une balle. C'est le colonel de l'armée qui a raconté. Ils sont tirés une balle, ils sont noyés dedans. Parce que si on sort, on se fait tirer dessus. Alors ils sont restés dedans. Et l'eau, elle monte. Et, subhanallah.
Ils sont rentrés une heure après Shabbat.
Après qu'ils ont entendu, mais il a plu. Et eux, maintenant, ils attendaient qu'ils rentrent. Maintenant, quand ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas, donc non seulement que l'eau, elle les a noyés, et l'eau, elle a empêché les explosifs d'exploser. Je ne sais pas si vous me suivez. Ouais. Quand ils ont vu ça, ils ont dit, bon, c'est pas grave, on va tirer les mortiers. Ils ont tiré les mortiers. Le mortier, il a un problème. C'est que le mortier, pour qu'il explose, il faut qu'il tombe sur quelque chose de dur. Mais là, il tombe dans la boue. Il n'explose pas. Trois miracles avec de l'eau. Avec de l'eau. Vous comprenez ou non? C'est-à-dire que, toi, tu vois, ils ont fait des calculs, ils ont fait des plans, et le bon Dieu, il a dit, il va pleuvoir, c'est tout. Pas des armes ultra sophistiquées, des hababas, des dadas, il va pleuvoir, avec de la pluie. Avec la pluie, on a tout fait. Oui. Dans cette logique-là, c'est quoi? Ça veut dire que toi, tu dois amener les missiles, tu dois amener les soldats, tu dois amener la mitraillette, mais tu n'oublies pas qui c'est qui va gagner la guerre. Ça, c'est vite Kadashtem. Vitem Kedoshim. Même si tu es un bon docteur, un très très bon docteur, ouais, tu dois dire, moi je vais faire ce que je peux, et le bon Dieu, si Dieu veut, il va me donner le diagnostic. Tu es un bon chirurgien, tu dis Dieu, il va tenir le scalpel. Ah, tu dis quand même, 20 ans d'expérience. Moi j'ai une certaine expérience avec les gens. À chaque fois que quelqu'un me pose une question, ou un cas, ou un enfant qui a un problème ou quoi, je prie. D'abord je prie. Ah mais je dis, mais je connais, mais j'ai l'habitude. Non. D'abord tu pries. Parce que où tu vas trouver les bons mots à la bonne personne au bon moment. Imagine maintenant qu'elle est partie, maintenant tu dis, j'aurais dû lui dire. Tu dis un mot de travers, la femme dit, ah c'est comme ça, paf, il divorce. Tu dis au mari, tu casses le moral, tac. L'autre jour, un couple comme ça, 20 ans de mariage, le type il m'a dit, c'est fini. J'avais une amma, maintenant moi je croyais que sa femme c'était un monstre. Parce que toujours quand vous écoutez l'un, l'autre c'est un monstre, c'est comme ça. Après quand vous écoutez l'autre, c'est l'autre le monstre. C'est extraordinaire, il n'y a que des monstres. C'est plus des mariages, c'est Harry Potter, ouais, d'accord, bon. Maintenant, moi la femme elle m'appelle, moi je pensais pas qu'elle allait m'appeler, moi je croyais à cause de la gava, d'après ce qu'il m'a dit, jamais elle va m'appeler. Elle m'a appelé, elle a pleuré, elle a truqué. Alors moi écoutez, moi je savais c'est quoi son problème. Bon, alors j'ai fait un email, elle m'a répondu, elle m'a dit j'ai lu le email en pleurs et j'ai compris sur quoi je dois changer. Après j'ai envoyé un texto au mari parce que j'arrivais pas à le joindre, je lui ai dit écoute maintenant ta femme elle a changé, elle va changer. J'espère que tu seras là pour accueillir la femme qui va changer ou tu vas dire non c'est trop facile et tu vas la casser encore une fois. Vous voyez, ça s'appelle la chirurgie de précision. Parce que tu dis un mot de travers. Maintenant, ça, c'est Dieu qui fait ça. Moi, j'ai aucun mérite. Dieu, il fait ça. Pourquoi? Ça s'appelle Veit Kadashtem, Veitem Kedoshim. Si tu te mets en recul, ouais, tu laisses faire le bon Dieu, il va faire ce qu'il a à faire. Maintenant, toi, fais des gestes. Mais le bon Dieu, il va faire ce qu'il a à faire. Si quelqu'un n'est pas convaincu intimement dans sa neshama que c'est comme ça, il devient un homme dangereux. Parce qu'il se prend pour le bon Dieu. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Donc ici, c'est marqué cette kedusha, mais on parle de ça juste avant de donner la liste des choses qu'on doit manger, qu'on ne doit pas manger. Alors après, si on réfléchit un peu à ça, on a expliqué déjà que la personne, elle est faite en trois parties. Il y a un corps physique, un corps psychique et un corps nishmatique. C'est-à-dire que la neshama, elle est faite de 248 membres et de 365 nerfs et artères. Maintenant, le corps physique, il est fait aussi de 248 membres, oui, et de 365 nerfs et artères. Et le corps psychique aussi, c'est-à-dire que la main, il y a la neshama de la main, il y a le nefesh, le psychique de la main, et il y a le corps de la main, le corps physique. Maintenant, nous, on dit que la neshama, elle nourrit le psychique et elle nourrit le physique. Et quand la main, elle est en bonne santé, ça s'appelle que la neshama, la main, elle a reçu de l'énergie dont elle avait besoin. Alors, les médecins allopathes, ils vont regarder le symptôme. Il y a une tache ici, donc ça veut dire que le sang ne passe plus. Donc, il va falloir refaire recirculer. C'est un hématome, c'est un traloïde. Les homéopathes, les chinois, ils vont dire, bon, alors, il y a des énergies, des courants d'énergie. Alors, ils ont été coupés. Donc, il va falloir rétablir le champ énergétique. Donc, il va faire des attouchements, de l'acupuncture, du traloïde, pour refaire partir. Ça, c'est au niveau psychique. Et nous, au niveau nishmatique, c'est-à-dire que la neshama, elle a un rôle à jouer aussi, et elle va redistribuer une certaine énergie à l'intérieur du corps. Alors si quelqu'un il va dire, oui, mais je suis sceptique au niveau de la neshama, moi je vous promets que si quelqu'un est mort et que la neshama l'a quitté, vous pouvez amener tous les homéopathes du monde et tous les allopathes du monde, le type, il ne va pas se remettre sur ses pattes, c'est fini. Ben oui, pourquoi ? Parce que quand il manque le principal, qu'est-ce que tu vas faire avec le reste ? Bonne conclusion. Donc maintenant, nous, il faut bien qu'on arrive à comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un système bizarre où il a mélangé trois systèmes qui, a priori, n'ont rien à voir les uns avec les autres, parce que le corps physique, bah, c'est de la viande, c'est de la chimie, c'est des échanges, d'accord, des globules blancs, des globules rouges, ça, c'est une chose. Après, un deuxième monde qui n'a rien à voir, c'est le monde de la psychologie. Je suis bien dans ma peau, je suis mal dans ma peau, l'énergie positive, l'énergie négative, j'ai envie de construire, j'ai envie de détruire, je veux me rendre malade, je veux m'en sortir, ça c'est un deuxième monde. Et il y a un troisième monde qui n'a rien à voir aussi, c'est le monde de la neshama. Vous voyez, la neshama, elle est diffusée à l'intérieur du corps. Le Tosfot là-bas dans Sota, il dit qu'on a un révi'it de sang qui contient 86 centilitres, qui contient la neshama sur les 5 litres de sang qu'on a en moyenne, d'accord ? Maintenant, qui a dame ou un nefesh ? C'est pour ça que quand quelqu'un y perd le sang, alors il va mourir à un moment ou à un autre. Mais la respiration aussi, elle correspond au nefesh, d'accord ? Donc un homme, il se nourrit d'air, il nourrit son sang. Donc cette logique-là, ça veut dire que ça va être très difficile, quand on regarde un corps humain, de savoir si on doit s'attacher au côté physique, au côté psychique ou au côté nishmatique. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de bagarres dans toutes les formes de médecine qui ont existé depuis toujours, d'accord ? Maintenant, ici, c'est intéressant qu'on parle maintenant de la nourriture. Alors, vous savez, moi, j'ai l'occasion de parler. J'ai pas eu la chance de faire des études, mais j'ai la chance de rencontrer des spécialistes, des gens qui font de la médecine, des gens qui font de la nutrition, des gens qui font de l'énergie. C'est incroyable. Et là-bas, ils disent un truc incroyable. Ils disent que la médecine du troisième millénaire, ça sera la nutrition. Ça sera la manière de manger. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait il y a à peu près 250 ans ? Ils ont commencé à rentrer la chimie, d'accord ? On a dit on va amener ça, on va amener les vaccins, après on va amener la pénicilline, après on va amener ça, après on va amener ça, après on va amener les antibiotiques et les traloïdiques. Ça a pris 200 ans pour que maintenant ils se rendent compte que grâce à Dieu, les trois quarts des médicaments amènent le cancer. C'est bien. C'est bien. Parce que pendant 2000 ans, oui, ils ont pris des plantes, ils ont pris des systèmes, ils ont pris de la respiration, et maintenant ils ont voulu mettre de la chimie. Mais le corps, il marche. Le corps lui-même, il marche. Vous me suivez ou non ? Le corps, il marche. Maintenant, normalement, les problèmes qui sont dans le corps, ils sont réglés par le corps. Maintenant, moi, je peux renforcer le corps pour qu'il s'occupe de ses problèmes. Ou non, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux créer un système qui va créer un parallèle, un monde parallèle à l'intérieur du corps. C'est ça la chimie. La chimie, ouais, d'accord ? C'est-à-dire que, premièrement, 50% de la médecine, c'est pour enlever les symptômes, parce que les gens, ils ont besoin d'être rassurés. Donc, vite, tu leur enlèves la fièvre, après, tu leur enlèves la tache, après, tu leur enlèves le bras, rien qu'ils soient rassurés. Ouais. Deuxième niveau, c'est quoi ? C'est qu'en fait, On veut séparer le problème du problème. On veut séparer comme une espèce d'anesthésie. Donc quand tu coupes le système nerveux, donc le cerveau n'est plus au courant de ce qui se passe. Les gens, ils croient qu'ils vont mieux. En fait, ils ont fait une anesthésie. Maintenant, comme tu peux faire une anesthésie au niveau du système neurologique, tu peux faire aussi une anesthésie au niveau du système physique. Par exemple, ton corps ne te dit plus que le cholestérol te tue. Ton corps ne te dit plus que la graisse est en train de te... Mais il ne te dit plus. Mais c'est pas pourtant que tu t'es soigné. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui. Même des trucs de base, ils ont dit, ah les gens transpirent, ça les dérange de transpirer, alors on va leur donner des déodorants. Mais les déodorants, ils contiennent de l'aluminium, comme ça, ça évite de ça, truc. Mais l'aluminium qu'il y a dans le déodorant, il donne le cancer du sein. Alors ils t'ont enlevé la sueur, et après ils t'ont enlevé les seins. Voilà, comme ça, c'est bien. Tout va bien, et c'est pas moi qui dis ça, hein.
C'est vrai.
Non, quand je mange, je lève la main, le contraire de vous, ouais. Mais... Au fur et à mesure, ils apprennent. Moi, je lis un petit peu des journaux scientifiques aux toilettes quand j'y arrive pas. Donc, mais on entend des choses qui sont reconnues. Il y a un professeur, d'ailleurs, qui est très, très gay, qui s'appelle le professeur Joyeux. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Non, c'est vrai. C'est un des plus grands cancérologues du monde. Vous voyez comment il parle des médicaments, vous avez envie de vous jeter par la fenêtre. Comprenez ou non? C'est lui, il explique aux gens... Ouais, il explique aux gens comment eux-mêmes, ils ont attrapé leur cancer eux-mêmes. Eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Vous avez, regardez, moi j'aime bien lire l'actualité avec un scanner. Parce que tu peux te perdre dans les détails ou tu prends des informations comme ça. Là, ils viennent de faire un statistique incroyable que le niveau d'intensité de la semence de l'homme occidental, elle a baissé de 80%. C'est-à-dire qu'il y a une baisse de virilité. Incroyable, ouais. Alors qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils font de l'importation de sang neuf. Pourquoi ils vont accepter les immigrés, les gens qui viennent d'Afrique ou les gens qui viennent du Maghreb? Pourquoi? Parce que c'est des gens qui n'ont jamais pris un antibiotique de leur vie. Donc leur sang, il est bon. Quand leur sang, il va se mélanger avec la population occidentale, ils vont remonter le niveau de force du sang. Et le sang et la semence, c'est la même chose. Donc les gens, ils ont une virilité qui baisse. Ouais. Parce que ça fait 100 ans qu'on leur bourre la tête avec des médicaments. Maintenant, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas se soigner. Hein. Et d'un autre côté, ça te permet de choisir ta mort. Donc, si quelque part, c'est bien. D'accord? Mais ici, c'est marqué une chose incroyable. C'est qu'on est en train de parler, je veux dire, ils disent, la médecine du troisième millénaire. C'est quoi? C'est qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu vas manger? C'est intéressant quand même que la Torah, il y a 3500 ans, elle a dit aux gens, faites attention à ce que vous mettez dans votre bouche. Ce qui a l'air d'être évident aujourd'hui, parce qu'on parle de ça, mais à l'époque, mais c'est un miracle. Ouais. Comment quelqu'un il va comprendre que quand tu manges quelque chose, ça peut te rendre malade? Parce que tu ne manges pas équilibré, ouais, parce que tu manges trop gras, parce que tu manges trop sucré, parce que tu manges trop traloédé, ou d'autres choses, ouais, qui ont déséquilibré. Mais ça, c'est encore une fois, c'est dans ce qui est, on va dire, ce qui n'est pas dangereux. Et ce que la science a découvert, mais il faut encore pousser plus loin. Donc quand la Torah elle est venue, elle a dit... Telle chose on mange, telle chose on mange pas. C'est pas pour rien que le Rambam était médecin, Vous savez qu'à la faculté de médecine de Montpellier, quand vous rentrez là-bas, qui était construite d'ailleurs dans le quartier juif du Moyen-Âge, dès que vous rentrez dans la fac, il y a la statue du Ramban, Nahmanide. Oui. Ramban. Nahman, pas Rabbi Nahman de encore un autre. Ouais. Donc maintenant ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était des très grands médecins. Mais d'où ils avaient appris la médecine ces gens-là? D'où ils savaient? Ouais. Quand en 1800 et quelques, les médecins, ils faisaient une opération, ils enlevaient un ulcère et juste après ils accouchaient une femme avec les mains sans les laver. Hein. Et après ils disent c'est marrant, il y a un taux de mortalité dans les hôpitaux qui est incroyable. Alors que c'est eux qui infectaient les gens, c'est eux qui les tuaient. Donc quand la Torah, il y a 3500 ans, elle a dit, il faut se laver les mains, c'est un hidouche. Oui, aujourd'hui, vous voyez, dans les toilettes, lavez-vous les mains, dans les hôpitaux, lavez-vous les mains, faites attention à l'hygiène des mains. Ça fait 3500 ans. Netilat yadaim. Mais pour le goy, c'est un hidouche. Waouh. Pourquoi je vais me laver les mains? Ils savent pas, oui. Quand il y avait la peste, alors ils disaient, c'est à cause des juifs. Pourquoi? Parce que les juifs ne mouraient pas. Tous les autres, ils mouraient. Pourquoi? Parce qu'il y a une halakha dans la Torah, que quand un homme meurt, Il ne faut pas le laisser dans la pièce où il est mort. Il faut vite l'enterrer le plus vite possible. Ouais. Et après, tous les ustensiles qui ont été en contact avec le mort, il faut les détruire. Donc c'est vrai que c'est des lois de Touma, mais d'un autre côté, quand vous laissez un E, et eux, ils avaient un minhag, que quand quelqu'un meurt, il faut le laisser 8 jours dans la maison, c'est pour la bracha de la maison. Donc imagine-toi maintenant le virus, comment il se propage. Maintenant, tous les ustensiles qui ont été en contact, il faut les détruire, il faut les brûler, il faut les enterrer. Donc il n'y a pas de transmission du virus. Ouais, mais c'est pas ça le but. C'était pas ça le but. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'étant donné que la halakha, elle a été donnée, et que Hachem, quand il a créé le monde, il a d'abord créé la Torah avant de créer le monde. Donc c'est normal que quand tu regardes la Torah, tu vois des facettes du monde physique, et des facettes du monde psychique, et des facettes du monde nishmatique. Vous me suivez ou non? Par exemple, c'est comme si quelqu'un il boit de l'alcool. Quand il boit de l'alcool, il voit que ça lui tourne la tête. Il dit, mais quel rapport? Moi j'ai ma tête, c'est la psychologie, c'est mon intellect. Et à part ça, j'ai l'alcool. Pourquoi l'alcool ça tourne la tête? Ben tu dis parce que ça a des retombées. Le chimique, il agit sur le psychique, c'est normal. Ouais. Comme les gens qui prennent de l'herbe aujourd'hui, ils croient que c'est rien du tout. Mais vous savez que grâce aux OGM, avant, le shit, il avait une concentration de 5%. Maintenant, grâce aux OGM, le shit, il a une concentration de 35%. 35%, ça veut dire que le type qui en prend régulièrement pendant 2 ou 3 ans, il a 90% de chances de finir paranoïaque. Au moins chez un psychiatre.
Il fait des pétards.
Oui, au moins chez un psychiatre. Ça, c'est la science goy. Parce que 35% de concentration, c'est énorme. Les gens, mais c'est rien, c'est de l'herbe. 35%, c'est énorme. C'est que le type, quand il fait ça, il prend 35% de poison. Grâce aux OGM, grâce à Dieu qu'ils ont appris à utiliser les OGM, ouais, donc ils ont réussi à trouver des nouvelles gammes de marijuana qui sont encore plus fortes, encore plus puissantes. Mais ça veut dire quoi? Quelqu'un il va dire que ça lui fait rien. Mais tu dis, mais ça c'est rien, c'est de la fumée. Mais la fumée elle agit sur ta tête, l'alcool il agit sur ta tête. Alors pourquoi tu ne vas pas comprendre que ce que tu manges aussi ça agit sur toi? Il dit le Rahaïm Akadosh, écoutez bien, quand Hachem il a créé les animaux, il a dit tous les animaux, regardez, tous les oiseaux ils viennent de l'air. C'est-à-dire leur principal constituant, c'est de l'air. Tous les poissons, ils viennent de l'eau. Leur principal constituant, c'est de l'eau. Tous les animaux, ils viennent de la terre. Maintenant, c'est quoi? Le monde, il a été créé avec quatre éléments. L'eau, l'air, le feu et le rafar. Rafar, c'est le carbone. D'accord? La terre, c'est le carbone. Ruach, c'est l'air. Maïm, c'est l'eau. Et Esh, c'est le feu. Maintenant, le poisson vient de l'eau. Ouais, maintenant, l'eau, elle est moins violente. L'air, elle est moins violente que l'eau. L'eau, elle est moins violente que la terre. Il dit le Rahaïm Akadosh. Pourquoi est-ce que la Torah, elle a dit, on ne peut pas manger de n'importe quelle viande? Et pourquoi les Mekoubalim, ils ne mangent jamais de viande? Parce que le niveau de chomer, de matière, à l'intérieur de la viande, il est beaucoup plus puissant. C'est pour ça que le niveau de violence, chez les animaux, il est plus grand que chez les poissons, ou plus grand que chez les oiseaux. C'est-à-dire que quand quelqu'un, il mange un animal avec le sang rouge, oui, son taux de matérialité, il est plus grand. Alors ils vont te dire, prenez des viandes blanches ou essayez d'éviter de manger de la viande. C'est quoi la logique? Plus tu vas approfondir, plus tu vas voir qu'en fin de compte, un homme, vraiment un homme, il est ce qu'il mange. Un homme, il est ce qu'il mange. Ouais. Maintenant, quelqu'un qui veut avoir des hautes perceptions dans la Torah, alors il ne mange pas de la viande. Maintenant, celui qui ne veut pas avoir des problèmes cardiovasculaires, il ne mange plus de la viande rouge. Ou non? Il va continuer à manger. Ouais. Cette logique, c'est quoi? Il dit le Ramban aussi, à un autre endroit. Il dit, pourquoi est-ce que les poissons qui sont permis, ce sont les poissons qui ont des nageoires et des écailles? Il dit, ce sont les poissons qui vivent le plus proche de la surface, à l'endroit où l'eau est beaucoup oxygénée. Plus vous descendez dans les profondeurs, moins il y a d'oxygène. Et il n'y a pas de lumière non plus. En haut, il y a de la lumière et il y a de l'oxygène. Maintenant, en haut, comme il y a de l'oxygène et de la lumière, donc les poissons, ils mangent le plancton. Le plancton, c'est des petites larves qui contiennent le maximum de vitamines. Au fond de la mer, les poissons qui vivent au fond de la mer, ouais, ils n'ont pas d'oxygène, ils ont moins d'oxygène et ils ont moins de lumière. Maintenant, ils ont souvent la police, ouais, et ils vivent au fond. Et qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent les déchets qui se déposent et ils mangent les cadavres de poissons. Donc, ils sont porteurs de maladies que ceux qui sont mieux oxygénés ne portent pas. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'on les mange ou qu'on ne les mange pas. Mais remarque quand même que ça existe. Et ça, il dit le Kovet Shurim, le Rav Elchanan Wasserman, il dit, c'est sûr que la Torah, elle n'a pas dit que tu dois faire ça à cause de ça et c'est à cause de ça. Et on fait la mitzvah parce que Dieu l'a demandé. Mais on n'est pas obligé de penser que Dieu, il a interdit ce qui est bon et il a permis ce qui est mauvais. Ok ? Hachem ou l'eau, il tire et à Dvarim à Raïm, ouais, ve Asar et à Dvarim à Tovim. La malarchov, kaha. Ouais. Comme ça, il dit Rabbi Khanan Vasserman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne, elle doit bien comprendre que même si ce n'est pas la raison pour laquelle on le fait, mais Akadosh Baruch Hu, lui, il a des bonnes raisons de le faire. Et cette raison, elle est au moins logique. C'est de la même manière, il dit que pourquoi est-ce qu'on ne mange pas les crustacés? Parce que les crustacés, les crabes et tout ça, c'est eux qui mangent les cadavres au fond de la mer. Que toutes les huîtres et tout ça, ça sert à quoi? C'est pour le siphon, c'est-à-dire c'est ce qui va filtrer l'eau. Maintenant, quand ça filtre les déchets, ne t'étonne pas que les types, ils attrapent des hépatites et des trucs. Ah, maintenant, c'est très riche en vitamines. C'est possible, d'accord. On n'a pas dit que ce n'est pas des vitamines, mais des vitamines qui peuvent être mortelles aussi, qui peuvent être dangereuses. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un y regarde, ça, c'est simplement au niveau physique des choses. Qu'il y a une certaine logique, que chaque élément, il apporte quelque chose à la personne, et chaque élément, il va donner une définition à la personne, par rapport à ce qu'elle absorbe. Pourquoi? Parce que ce que tu manges, au fur et à mesure que tu le manges, ça fait partie de toi. À tel point que le Ramban, il dit que les gens, ce que les gens mangent, le Ramban, maintenant, il est au Moyen-Âge, il dit ce que les gens mangent, ça fait partie de leur corps, et après, ça fait partie de leurs enfants. Il dit une femme, elle doit faire très attention à ce qu'elle mange quand elle est enceinte, parce qu'elle est en train de constituer les cellules de son enfant. Comment quelqu'un qui vit au Moyen-Âge, il peut comprendre ça? Sod Hachem l'Ireav, le secret d'Hachem, il a donné à ceux qui le craignent. C'est-à-dire que la Torah, elle a à peu près, oh, je ne veux pas exagérer, 20 000 ans d'avance sur la science. Entre 20 et 30 000 ans, en années-lumière, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a tellement de messages qui existent à l'intérieur, et que ces messages-là, ils passent, encore une fois, par rapport à quoi? Par une partie qui, on la voit de l'extérieur, qui est physique. Mais cette partie qui est physique, elle vient donner un message sur quelque chose qui est plus intérieur. Comme toujours, à chaque fois que je vous donne le cours, je vous explique, je compare avec le Shalom Bayit et avec l'éducation des enfants, après on parle des téfilines, après on parle de ça. Quel rapport? En vérité, c'est dans tout, il y a toujours un corps, ouais, et il y a toujours une neshama. Donc maintenant, il y a un homme et une femme. Toi, tu crois qu'il y a un couple? Ça dépend. S'il y a de l'amour, il y a une neshama. S'il n'y a pas de couple, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de neshama. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de neshama. La neshama du couple, c'est l'amour, la confiance, la bonté. Ouais, c'est pareil. Il y a un homme, une femme et quatre enfants. Donc toi, tu crois qu'il y a une famille? Ça dépend. S'il y a de l'échange, s'il y a de la compréhension, s'il y a de l'amour, s'il y a de la confiance, s'il y a de l'investissement, s'il y a de l'évolution, s'il y a de la compréhension. Alors là, tu peux dire qu'il y a une neshama. Donc tu vois bien que le corps de la famille, c'est le corps de chacun, mais la neshama de la famille, c'est l'intérieur. Maintenant, tu peux pourrir l'esprit de la famille, bien que tu as conservé le corps de la famille. Donc on ne pourra jamais séparer les trois dimensions. Oui. Alors si c'est ça, ça veut dire quoi? C'est que quand la Torah elle donne des règles, même si quelqu'un il n'est pas religieux, mais il a quand même une neshama. C'est pour ça que ça sort un effet bizarre. Et comme ça il explique aussi ça le Rav Elchanan Wasserman. Il dit que par exemple, quand un non-juif il ne mange pas kasher, ça ne lui fait pas d'effet. Je ne comprends pas, si c'est mauvais, c'est mauvais. Pourquoi ça ne lui fait pas d'effet? Parce qu'il n'a pas la même neshama. Comme il n'a pas le même niveau de neshama, donc l'impureté de la nourriture interdite, elle n'a pas le même effet sur quelqu'un qui n'a pas la même neshama que sur celui qui a une neshama qui est élevée. C'est-à-dire que quand la responsabilité est plus grande, alors les moyens sont plus grands, et mais les dangers sont plus grands aussi. Quand quelqu'un, son niveau est plus bas, alors les dangers sont plus bas. Qu'est-ce que tu risques? Il y a une quinzaine d'années, il y a un médecin qui a développé une manière de soigner le cancer en mangeant de l'herbe. Vous avez entendu parler de ça ou non? Parce qu'il a remarqué que les animaux, les chevaux, les vaches, n'ont jamais le cancer. Il a dit, mange que de l'herbe. Alors il a dit, on va manger de l'herbe. Il a fait ça. De la pelouse. Manger, pas fumer. Pas fumer, manger. Et ça existe, hein. Ça se vend vraiment en Israël avec Kasher. C'est des gens qui prennent l'essence de cette herbe-là, ou alors c'est des germes d'herbe. Ils mangent ça, les germes de blé, tout comme ça. Mais ils mangent le germe, c'est une très grande concentration. Ils soignent avec ça des maladies. Qu'est-ce que ça fait? Tu es revenu seulement à ton état originel. D'accord? Et la vache, elle n'a pas le cancer. Alors que maintenant, si toi tu te prends pour une vache, l'herbe peut te soigner. C'est ça. D'ailleurs, tout le monde le dit, hein, quand il te voit, oh la vache, ouais, d'accord, tu reviens dessus. Les algues aussi, oui. Les Chinois, ils mangent des algues. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, on verra si vous voulez les recettes après. Mais qu'est-ce qui est marqué ici? Détendez-vous. Je rappelle que la paella est faite à base d'épinards et non pas d'algues, pour les Tunisiens asiatiques. Alors, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué une chose incroyable. C'est qu'elle dit la Gemara dans Yoma, ouais, d'Aflamet Tet Amud Aleph, que celui qui se rend impur dans ce monde-ci, il se rend impur aussi dans l'autre monde. On a dit la question, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Quelqu'un, maintenant, il est tamé, Baolam Habas. C'est fixe, c'est bizarre. Après, le Sifra, dans Parashat Shemini, là-bas, il dit que celui qui se rend impur par un Ochel qui n'est pas pur, lui-même, il devient impur. Alors, qu'est-ce que maintenant, quelqu'un, il est impur? Alors, il faut bien comprendre que la Tum'a, dans la Torah, ouais, Tum'a, c'est le même langage que Atum. Atum, c'est quoi? C'est bouché. Tum'a, ça veut dire impur. Et Atum, ça veut dire bouché. Donc, ça veut dire que maintenant, que la Tum'a, ça rend bouché. Ouais, alors c'est facile à comprendre. Vous voyez, par exemple, quelqu'un, on va dire au niveau psychologique, quelqu'un, il dit la vérité. Il dit la vérité. Alors, il parle, il arrive à être sincère, à dire la vérité. Un jour, il commence à mentir. Il ment une fois, il ment deux fois, il ment trois fois. Maintenant, plus il ment, plus il a du mal à dire la vérité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bouché un canal qui s'appelle la sincérité. Avec le cumul du mensonge. Ça va? Quelqu'un, il fait des bêtises. Alors, il croit qu'il est libre parce qu'il fait des bêtises. En fait, en même temps qu'il fait des bêtises, il cumule la culpabilité. La culpabilité, elle empêche de se remettre en cause. Elle empêche de faire teshuva. Maintenant, qu'est-ce que c'est la culpabilité par rapport à la teshuva? La culpabilité, c'est la touma cumulée par les actes mauvais que tu as faits. C'est pour ça que la Gemara dit que Rechaim afilu al pitro shel geinam elam chozrim. La Gemara dit les Rechaim, même à la porte de l'enfer, ils ne font pas de teshuva. Pourquoi? Mipne shechelev al kesilam. Ils ont une graisse sur le cœur. C'est quoi une graisse sur le cœur? C'est que quelqu'un, en vérité, quand il fait des choix qui ne sont pas des bons choix, eh ben, il cumule ce qui l'empêche de revenir, lui-même. Comme quelqu'un qui ment, il n'arrive plus à dire la vérité. Quelqu'un qui n'a pas confiance, il n'arrive plus à avoir confiance. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, il a de moins en moins confiance en lui. Donc lui, il croit, en vérité, qu'il a fait un choix. En vérité, il s'enferme dans un non-choix. Maintenant, ce non-choix, il s'appelle la Touma. Maintenant, la Torah t'a donné un chidouche que la Avera, la Ravera, elle rend tamée. Alors, il faut comprendre. Est-ce que c'est le manger interdit qui rend impur, ou est-ce que c'est la relation que j'ai avec le manger interdit qui rend impur? Vous me suivez ou non? Est-ce que le manger en lui-même, il rend impur, à Ochel Metamé, ou non? C'est quoi? C'est la conscience que j'ai de faire un interdit qui fait que je deviens impur.
Là, c'est quand?
Alors, il y a les deux. Pourquoi on l'amène à Hacham Talouï? Ouais, quelqu'un, maintenant, il pense, il ne sait pas s'il a mangé cachère ou pas cachère, il doit amener un sacrifice. Maintenant, quelqu'un, il pensait que c'était cachère, mais ce n'était pas cachère. On lui dit, ah, tu n'as mangé pas cachère, il doit amener un sacrifice. Quelqu'un, il était sûr que ce n'était pas cachère. Mais c'était cachère. Mais lui, il a mangé le cachère en pensant que c'était pas cachère, en voulant ne manger pas cachère. Est-ce qu'il a fait une avéra de manger pas cachère?
Bien sûr que oui.
Mais qu'il n'a pas fait l'avéra, c'est glade cachère de Rav Marpoun.
Dans sa tête, il n'a pas.
Mais lui, il voulait manger pas cachère, mais c'était cachère. Donc maintenant, vous avez compris, il y a deux facettes. Il y a une facette de la réalité de ce que j'ai absorbé du pas cachère, et il y a une facette que psychologiquement, je voulais manger pas cachère. Et bien ça, malheureusement, ça existe aussi. Que des fois dans la vie aussi, quelqu'un, il croit qu'il veut faire du bien, mais en vérité, il n'a pas analysé le fond de sa pensée qu'au fond, il veut faire du mal. Donc maintenant, c'est une bonne intention qui cache une mauvaise intention, et ça lui pourrit la tête. Comme quelqu'un, par exemple, il dit, pourquoi c'est à moi de demander pardon? Alors lui, il croit que c'est parce que l'autre, il a tort, alors qu'en fait, c'est parce que lui, il est orgueilleux. Ça va? Ici, ça s'appelle que ton esprit, il est pollué dans ta tête. C'est pour ça que c'est marqué dans le pasuk. Ouais, quand c'est marqué. Venit metem bam, ici on l'a vu ici tout à l'heure. Ouais. Quand c'est marqué. Velo tetam ou baem. Venit metem bam. Alors, les chachamim disent. Al tikre venit metem bam. Et là. Unetam tembam. Vous voyez, c'est-à-dire quoi? C'est pas que vous allez devenir impur. Parce que l'état même, ça veut dire que vous allez devenir fermé. Et tu vois ça, que la personne, plus elle s'éloigne de la religion, et plus elle perd son libre arbitre. Les gens, ils croient le contraire. Mais moi, je fais ce que je veux. Toi, tu es obligé par le Shabbat. Toi, tu es obligé par la cacheroute. Toi, tu es obligé par la sniout. Alors, tu n'es pas libre. Mais moi, je suis libre. Mais c'est l'inverse. Parce que moi, maintenant, moi qui suis religieux, si demain je veux faire une avira, je peux la faire. Mais toi, qui n'es pas religieux, si tu veux faire une mitzvah, tu n'arrives pas. Donc, qui c'est qui est libre? Celui qui a un gros cerveau, il peut faire un métier idiot. Mais celui qui est brel, oui, il n'arrive pas à se concentrer, il joue avec son téléphone. Comment il va faire, ouais? Donc, celui qui est brel, comment il va devenir intelligent? Il ne peut pas faire un truc intelligent parce qu'il est bête. Comprenez? Même à mes enfants, moi, je leur dis, écoutez, travaillez votre cerveau. Faites de la Gemara, faites de la Mishnah. Si vous vous ennuyez, faites des mathématiques, faites de la physique, faites de la philosophie. Mais il faut avoir une grosse tête. Maintenant, avec une grosse tête, tu peux faire un métier idiot. Mais si t'es un ramar, tu peux pas rêver d'être un ingénieur. Parce que même en rêve, t'arrives pas. Même en rêve, t'es tellement complexé, t'es tellement nul dans ta tête, que même le rêve de l'ingénieur, tu le fais pas. Donc le tzadik, il peut être rachat. Mais le rachat, il peut pas être tzadik. Alors que le rachat, pourquoi il est devenu rachat, hein? Pour garder son libre arbitre. Mais c'est le contraire. Et si quelqu'un il va dire, ah, mais on parle de qui? On parle des tordus. Voilà, j'étais la semaine dernière, mercredi, je suis revenu d'Israël. Moi, je m'assois dans l'avion. Moi, j'ai un problème, je suis connu. Rabbi Chetrit. Maintenant, je m'assois, il y a quelqu'un, vous êtes là, il s'assoit à côté de moi. Bachou Yeshiva. On s'assoit comme ça. Je peux vous poser une question? Je dis ça et c'est foutu. Moi, j'ai dormi 2 heures la nuit. Ouais, j'ai dormi 2 heures. J'ai pris l'avion à 6 heures, je suis rentré à 2 heures du gala, j'ai parlé là-bas. Là, je m'assois, j'ai dit, j'ai 4 heures d'avion, je vais dormir au moins 3 heures. Non, bah, y a pas de vacances. Bah, on l'a masé. Pendant 2 heures. Et il commence. Oui, est-ce que le chapeau, c'est obligatoire? Est-ce que obligé de mettre la veste? Peut-être qu'il y a plusieurs niveaux, peut-être. Je dis, bah, aujourd'hui, tu parles de la veste et du chapeau. Demain, tu vas me dire, je mets pas la barbe. Ça fait trop... Ouais. Après, tu vas me dire, je reste en chemise. Après, je mets une chemise bleue. Après, si une fille, elle me parle, je vais pas la jeter quand même, on n'est pas des sauvages. Après, je prends son numéro. Après, on peut danser un peu, non? Il y a pas... C'est pas Minatora. Après, je sors avec elle, mais je la touche pas. Après, je la touche, mais je fais rien. Chas v'shalom. C'est lui où tu es arrivé, maintenant? Mais ça vient de quoi, ça? Ça vient du chapeau et de la veste. Parce que toutes les pentes du monde, elles commencent par descendre. Ça commence toujours, ouais. Maintenant, j'ai dit, toi, tu es religieux, j'entends exactement les mêmes arguments que les pas religieux. Les mêmes. De toute façon, il n'y a pas de mal, et on a vu des gens qui sont équilibrés, même s'ils n'ont pas la religion. Je dis, papa, alors si toi, qui es religieux, tu n'es pas convaincu, ou alors tu es déjà convaincu en deux mots, ouais. Alors, comment on va faire? J'étais un autre, aussi un Shabbat plein, avec une dame, from, religieuse, comme ça. Elle m'a dit, Rabbi Chetrit, mais vraiment, Irat Shamaim et tout. Elle m'a dit, je ne supporte pas la Nida. C'est pas qu'elle fait des Averot. Mais elle m'a dit, je ne comprends pas comment le bon Dieu il a fait que le mari que j'aime, je sais que toute ma vie, je vais être séparé de lui 15 jours par mois. Je trouve que c'est mal fait. C'est difficile. 15 jours par mois et tu peux pas prendre ton mari dans les bras. Et, mais, pas du tout, rien du tout, rien. Tu te lèves, bouche à panier, comme ça. Même moi, j'avais peur des étincelles ou là. J'avais peur de prendre feu. Une sadéquette comme ça. Mais elle a un problème avec ça. J'ai dit, c'est bien. Comme je l'ai dit au Bachro, c'est bien que tu poses tes questions maintenant. Parce que si tu les poses quand tu auras 6 gosses et une barbe comme ça, ça sera un problème. Mais elle, c'est pareil. J'ai dit, mais c'est très bien. J'ai dit, madame, c'est qu'elle me dit, alors comment je vais faire? Je lui ai expliqué pendant une heure. Elle a dit, ouais, c'est pas évident. Alors, j'ai écouté, vous savez, je vais le faire. Vous allez écrire un article pour expliquer pourquoi c'est important la Nida, que vous l'expliquez à quelqu'un qui n'est pas religieux. Elle me dit, mais quel intérêt? J'ai dit, ben, le religieux qui est vous, il va l'expliquer au moins religieux qui est vous. Toute la vie, c'est comme ça. Toute la vie, c'est comme ça. Toi, c'est pareil maintenant. Toi, tu vas dire, mais, ah, je t'en prie, c'est exagéré, qu'est-ce que ça veut dire ça? Quelqu'un, il devient impur parce qu'il a mangé. Ah, mais tu ne veux pas comprendre. Tant que quelqu'un, il n'a pas, tant que quelqu'un, il n'a pas eu un petit aperçu de qu'est-ce que c'est un tzaddik. Tant que quelqu'un, il n'a pas vu la pureté. Tant que quelqu'un, il n'a pas vu la grandeur. Tant que quelqu'un, il n'a pas vu la puissance des tzaddikim de la Torah. Il ne peut pas comprendre. Ouais, tu vas parler à quelqu'un aujourd'hui de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais les gens, ils pensent que Tom Cruise, c'est un tzaddik. Ils pensent que Michael Jackson, c'est une réincarnation de Rabbi Meir. Alors comment tu vas leur parler de Rabbi Yohanan Ben Zakkai? Comprenez ou non? C'est ça le problème. Mais même des gens des Kedoshim, moi je me rappelle Rabbi Ankel de d'Anvers. Il avait une face, il était brillant. Des gens qui sont brillants, ouais. Ben non, le Rav de Brisk, ils lui ont fait une prise de sang, pas une prise de sang, il était dans le coma. Ils lui ont mis de. Ils lui ont voulu faire. Comment ça s'appelle? Lui mettre du sang.
Ouais. Une transfusion.
Ouais. Mais c'était en Pologne ou je sais pas quoi. Ils lui ont mis une transfusion avec le sang d'un goy. Et le sang, il rentre pas. Ils mettent la pression, ils augmentent. Le sang, il rentre pas. Il rentre pas. Il dit, c'est pas possible, il rentre pas. Il sort du coma et tout. Qu'est-ce que vous faites? Il dit, on est en train de transfuser. Il dit, c'est le sang de qui? Un goy, il rentre pas. Il rentre pas. Ça n'a pas de sens. Ce sont des tuyaux. C'est simplement des tuyaux dans lequel nous allons injecter un liquide qui, par le jeu d'une pression, va s'introduire dans le circuit sanguin. Il rentre pas, il n'est pas chayar. Amavdil ben Israël Amim, il rentre pas. Une fois, il a mangé par erreur, pas cacher, il a vomi. Ils sont venus chez lui, on s'excuse, il y a un problème dans la cache-route. Son corps, il a refusé. Vous avez compris ou non? Comme des gens, ils sont tellement vrais que le mensonge, ils ne rentrent pas. Ils n'arrivent pas. Il y en a, ils sont tellement droits que la tahboula, tu leur expliques, on va faire une tahboula, il ne comprend même pas.
Il n'arriverait jamais.
Hein?
Il n'arriverait jamais à ça.
Voilà. Maintenant, tu lui expliques, tu vas gagner 1 million d'euros, rien que tu fais un faux témoignage, après on brûle l'entrepôt. Il ne comprend même pas. Pourtant, c'est un khacham. Il comprend tout. Et l'embrouille, il ne comprend pas. Pourquoi? Il n'est pas compatible. Il n'est pas adapté. Donc, ça veut dire quoi? C'est que quand quelqu'un, il prend un certain niveau, et c'est ça le vrai problème, c'est est-ce que quelqu'un a de l'ambition ou quelqu'un n'a pas d'ambition? C'est ça que j'ai dit à ce bachour. Il m'a dit, oui, mais c'est pas évident, d'après la lacha, d'après tout, est-ce que c'est obligatoire et le chapeau? J'ai dit, c'est pas le problème, on s'en fout du chapeau, papa. Mais tu peux aller en jean. Mais le problème, c'est pourquoi tu veux mettre un jean? À quoi tu veux appartenir? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Maintenant, toi, tu as une problématique avec une halakha du Shulchan Aruch. Est-ce qu'on peut toucher la main des filles? Alors, comment tu vas apprendre 15 millions de halakhot? Une fois, Rav Moshe Feinstein, vous avez entendu parler de lui, non? Un religieux. Ouais. Il était en train de marcher, il sortait de la synagogue, et les gens, ils l'arrêtaient. Ils lui posaient des halakhot, ils lui posaient des questions. Oui, dans quel cas, qu'est-ce qu'on doit faire? Et lui répondait. Tac, maintenant il répondait. Dans la cache-route, dans les guitines, dans les dinetara, dans la nida. Dans, une puissance de rêve. Ta, 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 ta. Une vitesse comme ça. Alors, quelqu'un, un vieux comme ça, il l'a vu, un vieux. Il a dit que c'est pas normal ça. Comment? Il répond à une telle vitesse. C'est pas normal que quelqu'un, il arrive à répondre tellement vite. Il faut qu'il prenne le temps, il réfléchit à la question, tout ça. Alors, Moshe Fachin, il a entendu. Il s'est approché, il lui a dit. Il dit, Keshe ben Adam, Chazar ala Shulchan Aruch, Shlosh me'ot shiv'im ve'arba pa'amim, ou yachol la'anot. Quand quelqu'un, il a révisé 375 fois le Shulchan Aruch. Vous avez vu comment c'est un Shulchan Aruch? 375 fois, il peut répondre. Mais le problème, ce n'est pas les 375 fois, ouais. C'est quelle amplitude il faut, quel réceptacle il faut, quel esprit il faut, quel irat shamaim il faut, et quelle humilité il faut pour réviser 375 fois, alors que toi, tu as un problème avec une halakha de ne pas toucher les filles, ou une halakha de manger kasher, une halakha, déjà, tu as un problème. C'est-à-dire qu'avec une halakha, tu as caché le monde. Comme les gens qui voient un défaut chez leur femme, alors, il ne voit pas toutes les qualités. Bon, c'est vrai qu'il y a un problème. Bon, elle est un peu nerveuse. Mais t'as vu tout ce qu'elle a? Non. Bon, ça va, il arrive en retard, ton mari. Mais à part ça, il est gentil, il est sympathique. Il est pur, il est honnête. Il est kadosh. Non. Il arrive en retard. Je lui ai dit, c'est mon anniversaire. Comment c'est possible? Ça veut dire que toi, tu n'es pas capable de voir le bien. Tu as un problème dans ta tête. Mais tu n'as pas un problème parce que tu as vu. Tu as un problème pour ce que tu ne verras plus. Parce que tu t'es bouché la tête. Et c'est ça la Touma, c'est que ton cerveau est devenu petit. C'est une très grave maladie, ça s'appelle mesquine. L'esprit bouché. Moi je vous dis, je parle avec des gens qui ont des cerveaux incroyables, mais quand tu leur parles de la vérité, ou quand tu leur parles de choses qui le remettent en cause, ils deviennent des hamarim. Des imbéciles, c'est bizarre, non? C'est ça la Touma. Dans la philosophie, des fusées. Dans la psychologie, des fusées. Dans les mathématiques, des fusées. Mais quand tu lui dis, tu sais, il faudrait que tu parles avec ton fils, ah, de quoi tu te mêles? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu te prends pour mon père? T'as vu un peu? Ça, c'est la remise en cause. Alors, si tu lui parles de la cache, si au lieu de lui parler de son fils, tu lui parles de son père, comment il va faire? T'as compris ou non? C'est-à-dire que les gens, ils parlent de liberté, alors qu'en fait, ils refusent la liberté. Les gens, ils parlent de maturité, alors qu'en fait, ils ont une relation immature avec la chose. Les gens, ils parlent d'affirmation, alors qu'en fait, ils passent leur vie à renier les choses. Ah, qui a dit, où c'est marqué, à quoi ça sert, je ne suis pas obligé. Donc, en fin de compte, ils n'ont pas une relation de maturité avec la vie. Maintenant, celui qui est immature devant la cache-route, vous croyez qu'il va être mature devant la maladie? Vous croyez qu'il va être mature devant le divorce de son fils? Vous croyez qu'il va être mature devant l'Alzheimer de sa mère? Il va nier. Mais non, elle va très bien. Elle va très bien. Bon, elle a des petites pertes de mémoire. C'est vrai qu'elle ne nous reconnaît plus, mais c'est son côté comique. C'est une très grave maladie en psychologie. Ça s'appelle le déni. Ouais. Tu vois maintenant, quelqu'un, il a le déni de la maladie. L'autre, il a le déni. L'autre, il a un déni de Dieu. Un déni de Dieu. Il va renier. Il va pas accepter. Il va pas vouloir voir. Lui, il croit que c'est parce qu'intellectuellement il a choisi. C'est l'inverse. Comme ça, il dit le Messiah Técharim. C'est qu'à force de manger pas cachère, son cerveau, il s'est restreint. Il n'arrive plus à percevoir. Vous comprenez ou non? C'est pour ça que quand les gens, ils ont des problèmes avec son mari, avec sa femme, avec son fils, moi, toujours, je pose la question. Mais bon, ce que vous reprochez, est-ce qu'il ne veut pas ou est-ce qu'il ne peut pas? S'il ne peut pas, il n'est pas capable. Tu es en train de te battre, oui, je voudrais qu'il soit gentil, mais il n'est pas comme ça, il n'est pas. Je voudrais qu'il soit tendre, il n'est pas. Je voudrais qu'il dise merci, il ne sait pas. Est-ce qu'il ne peut pas ou est-ce qu'il ne veut pas? Vous comprenez ça en psychologie? Si toi, tu as des attentes de quelqu'un qui n'est pas capable de le faire, soit parce qu'il n'a jamais appris, soit parce qu'il est trop bloqué dans sa tête. Donc ça ne sert à rien de t'épuiser à attendre une chose qui ne viendra jamais. Oui? Eh bien, c'est exactement pareil. C'est ce qui est marqué Veni Tam Tembam. Quand la personne, elle ne mange pas cachère, elle cumule en elle des choses qui font que elle commence à voir les choses différemment. Elle n'a plus une approche qui contient la perception. C'est pour ça qu'une fois, le Rambam, il raconte qu'il avait reçu une lettre d'une communauté. Ils ont commencé à poser des questions sur la religion et tout ça. Et il a vu que ces questions-là, elles contenaient des problèmes de Emouna. Ouais. Alors, au lieu de leur répondre à leurs questions qu'ils avaient, il a dit, faites vérifier si les shochatim que vous avez, ils ont Yirat Shamaim. Vous avez compris ou non? Les shochatim, ceux qui font l'abattage. Ouais. Il a vu que le shochatim n'était pas cachère. Comme les shochatim n'étaient pas cachères, la viande n'était pas cachère. Comme les gens ne mangeaient pas cachère, ils avaient des problèmes de Emouna. Et comme ils avaient des problèmes de Emouna, ils remettaient en cause la religion. Mais ça n'a rien à voir avec eux. C'est la Shrita. Je ne sais pas si vous me suivez. À cause de la Shrita. À cause de la Shrita. Et d'ailleurs, il raconte là-bas qu'après cette ville-là, elle a été détruite par un pogrom. Ils les ont massacrés tous. Pourquoi? Mais parce qu'en vérité, la relation que tu entretiens avec la réalité, la relation que tu entretiens avec le divin, elle dépend de ce que tu es. Maintenant, ce que tu es, c'est ce que tu... Ouais, ce que tu développes. Comme tu vois des gens qui ont un très grand potentiel, mais comme ils n'ont pas confiance en eux, ils n'arrivent pas. Comme quelqu'un là, encore une personne qui me téléphonait, son mari il est médecin, et c'est un alcoolique. Il n'arrête pas de boire. Mais il ne reconnaît même pas. Mais je comprends pas, t'es médecin, tu sais bien que l'alcool ça fait de l'effet. Le mec il est bourré. Bourré. Comment il va se lever le matin? Comment il va soigner un malade? Il peut pas, il est bourré. Il voit même pas où il est le problème. Et si tu lui dis, mais non, c'est toi qui es folle. Mais ça me fait rien, moi je tiens très bien l'alcool. Mais ton cerveau il marche pas à la même vitesse. Tes choix ils sont pas pareils. Donc c'est maintenant, si tu comprends l'alcool, alors tu dois comprendre que la viande pas cachère, elle fait de l'effet. Que à chaque fois que tu manges un insecte, volontairement ou involontairement, ça fait de l'effet. Quand tu mélanges le lait avec la viande, ça fait de l'effet. Mais qu'est-ce que ça fait comme effet? C'est qu'à l'intérieur de ton être, il y a des canaux qui se ferment. Et quand les canaux ils se ferment, tu vois les choses différemment. tu as une approche différente. Et dans ces canaux-là qui se ferment, il y a aussi des canaux psychologiques. Et il y a aussi des canaux psychiatriques. Après, tu viens chez moi, tu me dis, je suis en dépression, je suis paranoïaque. Je dis, bah, qu'est-ce que je te dis ? Moi, je regarde ce que tu fais de ta vie. Regarde ce que tu fais. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre. Maintenant, le goy, il a découvert que, cuire le lait et la viande ensemble, c'est cancérigène. Alors, on va attendre un jour que le goy comprenne que quand on mange des vers dans la salade, ça rend paranoïaque. Vas-y, va attendre qu'il se réveille. Et on va comprendre pourquoi est-ce qu'il faut vérifier chaque salade et pourquoi il faut tremper dans le vinaigre. Allez, c'est exagéré, qu'est-ce que vous faites ? Alors qu'en vérité, les choses, elles sont logiques. La preuve, c'est qu'avec les insectes, on fait des médicaments ou avec les insectes, on fait des poisons. Donc pourquoi est-ce qu'il ferait un poison ou un médicament quand tu manges, ça ne ferait rien ? T'as compris ? Et la grand-mère qui est restée 4 heures pour vérifier la salade, qui dit « ouais, c'est trop ». Elle prenait la salade, elle lave, elle recommence. Elle voit tout, tu n'as rien vu toi. Elle te dit, il y a un petit trait comme ça. Elle creuse, elle sort un verre. Ah, c'est exagéré. C'est vrai, c'est exagéré. Mais celle-là, sur son lit de mort, elle parle avec Eliohana. En rêve, elle te dit, fais attention à ça. Comment elle a tout ça ? C'est la Kedusha, Baba. La Kedusha, tu ne l'as pas ramassée dans un... au duty free. Je vous ai raconté la grand-mère, non ? Vous vous rappelez ou non ? Sur son lit de mort, dans le coma, elle est comme ça dans le coma, et c'est un Shabbat. Et pendant Shabbat, la cousine qui n'est pas religieuse, elle lui amène de l'eau chaude. Maintenant, elle lui met l'eau chaude dans la bouche, en plein, dans le coma, elle dit « Shabbat, Shabbat ». Elle dit « C'est Shabbat ». C'est-à-dire qu'elle est dans le coma, et elle sait que dans la maison, il n'y a pas de doute pour chauffer l'eau, donc elle sait qu'on lui a donné une eau qui est chauffée pendant Shabbat. C'est-à-dire qu'elle, dans le coma, elle est plus réveillée que l'autre qui est réveillée. C'est comme ça qu'il vivait. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quelqu'un, il atteint un tel niveau de pureté, un tel niveau de force, un tel niveau de croyance, ouais, mais parce qu'il a fait attention. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que quand la Torah, elle t'a donné, par exemple, la pudeur, c'est pas simplement pour que tu caches tes formes, c'est parce que toi, tu vas avoir un lien avec l'intériorité des choses. Maintenant, si toi, tu es une personne superficielle, ne t'étonne pas que ta vie, elle est superficielle, que tes problèmes sont superficiels, que tes solutions sont superficielles, que tes enfants sont superficiels, que ton couple est superficiel, parce que tu es superficiel. Ça, c'est la grande, non ? Donc la Torah, quand elle a dit la tsniout, la pudeur, la face extérieure, c'est genre, il faut avoir un peu de savoir-vivre. Mais la face intérieure, mais c'est que tu as beaucoup plus à cacher qu'à montrer. On espère pour toi. Ben c'est exactement pareil à l'intérieur de la cache-route. Que la personne, elle réfléchit, elle dit qu'il y a deux problèmes. Il y a un problème d'ambition et il y a un problème de cohérence. Le problème d'ambition, on l'a expliqué, c'est ça. C'est est-ce que quelqu'un, un jour, il se lève le matin, il veut faire quelque chose avec sa vie ? Est-ce que quelqu'un, il a une ambition que la Shekhina, elle va être dans sa maison ? Est-ce que quelqu'un, il a une ambition qui va toucher un jour à la pureté ? Est-ce qu'un jour il a une ambition qui va comprendre quelque chose dans les profondeurs de la Torah, ou au moins dans les profondeurs de la vie, ou non ? Celui qui n'a pas l'ambition, celui qui veut rester un cheval, c'est pas grave, il faut des chevaux aussi, il en faut. Mais si quelqu'un, un jour, il veut faire quelque chose avec sa tête, il va falloir qu'il crée un bête qui boule, un réceptacle, qu'il se donne les moyens, comprenez ou non ? Moi, je vous dis la vérité, moi, quand j'étais jeune, j'ai fait de la philosophie, tout seul, pas avec les livres et tout ça. J'ai réfléchi un peu à la psychologie, j'ai réfléchi un peu à des choses. J'ai parlé avec des physiciens, avec des chercheurs, avec des rabbinim, j'ai parlé. J'ai attrapé des choses. Et j'ai la peine, des fois, j'ai la peine que je vois que des gens, ils les comprendront jamais. Ça va même pas leur traverser la tête. Parce qu'ils sont pris dans leur petit roman, dans leur problème de digestion, dans la pizza qu'ils vont manger tout à l'heure. C'est ça leur vie. Ils sont à la hauteur de la pizza. Ouah, très plate. Il y en a, il arrive au plat de pâtes. Il y en a, il est en train de réfléchir à quoi il pensait le cuisinier, pourquoi est-ce que la pizza, elle est bonne. À l'autre, il va dire, parce que si le cuisinier pensait à ça, c'est qu'il était vraiment épanoui. Maintenant, si quand je mange la pizza, j'ai envie de faire tes chouvas, je dois réfléchir, est-ce que le cuisinier, lui, il a mis des étincelles de spiritualité à l'intérieur de la pizza ? Jusqu'où tu peux monter ? Il n'y a pas de limite. D'accord ? Ou le contraire. Donc, premier problème, le problème de l'ambition. Je dis, mais même quand je vois un couple qui s'engueule, je dis, mais vous n'avez pas d'ambition. Même quand je vois un enfant qui se prend la tête avec son fils, je dis, mais tu n'as pas d'ambition. Tu n'as pas d'ambition de faire quelque chose de ta vie. Oui. Donc la Torah, elle a donné des règles pour que quelqu'un y puisse repousser ses limites. Il y a un deuxième niveau, c'est quoi? C'est la cohérence. Et ça, c'est très important. On est revenu sur ça, mais les gens, ils ne comprennent pas. La cohérence, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a deux scénarios. Soit tu manges cachère, soit tu ne manges pas cachère. Maintenant, si tu manges cachère, la question, c'est de savoir pourquoi tu manges cachère. Puisque quand tu manges cachère et que tu ne manges pas cachère, donc tu ne manges pas cachère. Par exemple, il y a des gens, c'est très rare, au Hachem, il y en a presque plus. Mais ils mangent cachère à la maison, mais en dehors de la maison, ils ne mangent pas cachère. Ils disent, c'est pas qu'ils ne mangent pas cachère, mais ils mangent dans un restaurant qui n'est pas cachère. D'accord? Rabotai, il faut bien comprendre une fois pour toutes. Vous-même à la maison, ouais, est-ce que vous allez prendre une casserole dans laquelle vous allez faire cuire un poulet pas cachère et après vous allez le rincer et vous allez mettre à cuire un poulet cachère? On peut faire ça? Oui, non? Oui, non? Oui, non? Même quelqu'un qui n'est pas religieux, est-ce qu'il va faire cuire un beau jambonneau de porc, après il lave la casserole avec du savon et après il met un poulet glade cachère de Bnei Brak? Est-ce qu'il peut faire ça? Non? Oui, non? Oui, non? Alors quand il va dans le restaurant Goy, même s'il mange des pâtes, mais le type il a fait cuire du cochon avant. Donc le goût du cochon, il rentre dans la marmite, et après lui, dans son plat de pâtes, il mange les pâtes au cochon. C'est pour ça qu'il dit, c'est pas le même goût qu'à la maison. C'est normal, c'est ta rêve. C'est connu, le pas cachère est toujours meilleur. Pourquoi le pas cachère est meilleur? Parce qu'il y a un goût en plus qui n'est pas à la maison. Ça, c'est une épice qui s'appelle Avera. C'est le goût de la Avera. Ta'am Aïssour. C'est pour ça que la femme de l'autre, elle est toujours plus excitante que la tienne. C'est pour ça que l'argent de l'autre, il est toujours plus attirant que ton argent. C'est pour ça que les midotes de l'autre, elles sont pas. Pourquoi? Parce que Assour, ça veut dire quoi, Assour? Assour, ça veut dire interdit. Ouais. Et Assour, ça veut dire aussi inaccessible. Bet Assourim, c'est la prison. Ouais. Donc maintenant, toi, tu es enfermé dans ta petitesse. Tu es enfermé dans tes interdits. Tu es enfermé dans ta lourdeur. Maintenant, les interdits, quand on les utilise, ça libère. Et quand on les subit, ça s'appelle des contraintes. Comme si un diabétique, on lui dit, il ne faut plus manger de sucre. Il dit, laissez-moi vivre. Tu n'as pas compris, mais si tu manges du sucre, tu vas mourir. Donc le diabétique, quand il ne mange pas du sucre, il est vivant. Et le juif, quand il ne mange pas cachère, il fait le contraire. Il fait le contraire. C'est comme un diabétique qui mange du sucre. Ah, tu vois pas les effets tout de suite? Ouais, comme je l'expliquais déjà. Tu prends une salade, une petite salade, une salade verte, bonjour, une salade verte. Tu prends une salade verte. Bon, une salade verte, d'accord. Un ou deux verres, des petits muscles. Un moucheron, un petit moucheron. Alors, chaque moucheron, ça compte comme 5 fois 30 grammes de cochon. Si tu prends 150 grammes de cochon, c'est déjà pas mal, une belle part, pour chaque moucheron. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est que tu en as mangé 3, ça te fait 450 grammes de cochon. Tu dis, j'ai plus faim. Et voilà, tu vas faire Berkat Amazon. Ouais, on ne fait pas sur le cochon. D'accord. Tim, mais j'ai rien mangé. À la métime. D'accord. Mais tu n'as rien mangé? Non, tu n'as rien mangé. Tu n'as rien mangé, je vais dire mieux encore, ça ne se voit même pas. Et si quelqu'un va dire, ah, il ne faut pas, c'est tellement petit, c'est pas intéressant. Mais tu sais quand la banque, elle vient chez toi, elle te dit, mais dans votre argent, il y a des traces de blanchiment de la mafia, de la drogue. Mais quelques traces. Ouais. S'il y a du polydium, à l'intérieur de la farine. C'est ce qu'est le polydium. C'est une matière radioactive avec quoi ils tuent les gens. Mais quelques grammes, je t'en prie. Polonium. Polonium, ouais.
Polonium en italien.
D'accord. C'est du pognon. C'est le pognon. Ouais, d'accord. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la personne, elle dit, mais je t'en prie, c'est quelques grammes. Mais la salade qui n'est pas vérifiée, ouais. Les œufs qui ne sont pas vérifiés, il y a une tache de sang. C'est assourd. Qu'est-ce que ça fait de grave? Rien, c'est rien, mais rien n'est grave. C'est ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que rien n'est grave. Ouais. Le problème, c'est que c'est interdit, plus c'est interdit, c'est interdit, c'est interdit. Le fromage, tu dis, ben c'est rien, je t'en prie, c'est du fromage. Bon, c'est du fromage. Tu prends la pizza, tu prends pas la pizza au lardon, Chas v'Shalom. Prends la pizza classique, mais la pizza, elle contient du fromage. Le fromage, avec quoi il a été fait? Ben, c'est de la présure animale. La présure animale, c'est un morceau de l'estomac de la vache, qui n'est pas cachère, qu'on a remis dans le fromage, et c'est ça qui fait fermenter le fromage. Donc tu es en train de manger de la présure de vache. Tu dis, mais non, mais c'est pas de la présure, c'est du fromage. C'est comme tu veux.
Caglio, on dit en italien, caglio.
Caglio. Caglio. Donc ça veut dire que chaque chose, si quelqu'un il n'apprend pas l'alaha, ouais. Et la preuve que c'est comme ça, moi j'étais très content quand il y a eu la maladie de la vache folle. Vous rappelez la maladie de la vache folle ou non? Pourquoi? Pourquoi j'étais content? Pas parce qu'il y a des gens qui sont devenus folles. En France, la moitié de la France est folle. Ils sont toutes folles. Mais c'est quoi? C'est parce que les gens, ils ont commencé à être macpides. Ils ont commencé à faire attention. Est-ce que quand c'est marqué graisse végétale, graisse animale, alors d'où est-ce quel animal et de quel animal et qu'est-ce qu'il a mangé l'animal? Ah, maintenant, ils sont devenus des chassidim maintenant. Maintenant, Hugo, il y avait eu un grand scandale avec McDonald's parce que les frites, elles contenaient de la graisse animale. Mais combien de juifs ils ont mangé les frites de McDonald's? Et combien ils ont été manger le poisson de McDonald's en disant, mais c'est pas de la viande, c'est du poisson. Mais le poisson aussi, il est frit. Et dedans, il y a un goût spécial. Il met de la graisse qui est interdite. Cette graisse-là, elle est assoura. Et tu vas dire, mais c'est que du poisson. De qui je me fiche? C'est que du fiche. Mais toute la vie, c'est comme ça. Mais moi, je dis, quand les gens ils me disent, oui, mais quand même, Rav Chetrit, c'est compliqué. Je lui dis, mais Dieu merci que Baruch HaShem, qu'on est mis à l'épreuve sur ne pas manger au McDonald's et ne pas manger dans les restaurants goy. Avant, ils étaient mis à l'épreuve de quoi? Ils égorgeaient ton père et ta mère, et le lendemain, tu devais mettre les téfilim. Ça, c'est une épreuve. Les gens, ils avaient un pogrom, et le lendemain, ils devaient étudier la Torah. Les gens, ils travaillaient pendant 30 ans, on leur prenait tout, on les foutait dehors. Les gens ont violé leur fille devant eux et on disait, vas-y, va lui trouver un chidour maintenant que le Cosaque il a violé. Ça, c'était des épreuves. Maintenant qu'on a des épreuves, genre c'est difficile d'aller au restaurant cachère. C'est difficile d'aller au restaurant cachère. C'est ça ton épreuve. Mais le problème, c'est que plus on met un niveau bas, plus on est bas. Vous savez très bien ça, oui. Après, tu viens, tu dis, ah, tu comprends, il m'a amené une fille pour se marier, mais elle n'est pas vraiment juive, mais elle n'est pas vraiment goy. Elle est comme toi. Pas vraiment juive, pas vraiment goy. Le compromis. Ouais. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas que quand la personne, elle vit comme le goy, elle mange comme le goy, ouais, elle pense comme le goy, elle marie le goy. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Comment tu vas lui expliquer à ton fils? C'est quoi le problème? Il n'y a pas le problème. Alors ici, c'est marqué que même quand c'est inconscient, quand toi, tu ramasses, parce que tu vis comme ça, ça veut dire que la nourriture, elle donne aussi la hashgacha. Elle va te donner l'intervention divine. Et ça, ça fait peur. C'est que tu crois que le rav, il fait attention pour chaque chose. Tu crois que la personne, ça fait des années, elle fait attention d'où elle vient la viande, d'où elle vient le truc, d'où elle vient... Pour rien, tu crois que c'est pour rien. Mais non. Parce que comme elle fait attention et que la vie, c'est un miroir, alors quand toi, tu fais attention à ce que Dieu, il demande, alors Dieu, il fait attention à toi dans ce que tu demandes. Parce que moi, je peux vous dire, de ma petite expérience, que pour bien marier les enfants, aujourd'hui, c'est un miracle. C'est un miracle. Oui. Chez les religieux, avec des bachorim, avec des bachorot, des séminaires, c'est un miracle de trouver quelqu'un de bien. Alors, dans la rue, la fille de 25 ans, si elle n'a pas eu au moins 83 mecs, si la famille n'est pas à moitié fou, si le frère il n'est pas homo, si la sœur n'est pas dans la coke, mais tu dois remercier le ciel. Et ça, c'est quoi ça, Rabotai? Ça, c'est la kpida. Ani makpid, Hachem makpid. Moi, je fais attention, Dieu, il fait attention. C'est pas un donnant-donnant, c'est la vie. Comme quelqu'un dans le business, il a pris sur lui de faire du cachère, on va lui proposer des affaires cachères. Quelqu'un, il est d'accord de faire du traloued, on va lui proposer du traloued. C'est comme ça. Tout celui qui est dans le business, il sait que c'est comme ça. C'est ce que tu as choisi au départ. Est-ce que tu as voulu faire Beyashrout ou tu as voulu faire des traloued? Dans tout, même dans la cacheroute, celui qui veut faire du traloued dans la cacheroute, il y a Yeshmanasot. Ouais, tu peux faire. Celui qui veut faire du tralouet dans la yeshiva, il y a de quoi faire. Celui qui veut faire du tralouet dans le mariage, il y a de quoi faire. Parce qu'il y aura toujours la possibilité. Donc en vérité, ce n'est pas une récompense ou ce n'est pas une punition. C'est seulement une logique de miroir. Et ça, c'est Mida qui est Negen Mida. Ouais. Quand toi, tu fais attention. C'est-à-dire que toi, depuis que tu es dans ta maison, qu'est-ce qui rentre? Les produits, qu'est-ce qui fait? Comment on fait la truc? Comment on fait attention? Le lait, la viande. Donc les enfants, ça rentre à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc comme ils font faire attention au lait, à la viande, ils vont dire, cette personne-là, on